Salut les joueuses, salut les joueurs. Nous sommes en octobre 2025 et vous écoutez un dossier de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Bienvenue dans les profondeurs obscures de Proxy Jeux. Ce soir, notre dossier s'aventure dans les ombres, là où la lumière des meeples ne pénètre plus. Un petit rappel sur le concept, les dossiers, ce sont des émissions pour lesquelles nous avons choisi un thème. Autour de ce thème, nous avons réuni des chroniqueurs et chroniqueuses de l'équipe qui vont vous proposer chacun et chacune une chronique en lien avec ce thème, en essayant d'en avoir une approche différente. Et ce soir, on vous propose un thème de saison qui fait frissonner même les plus braves ludistes, la peur. Pour m'accompagner dans cette descente vers l'indicible, je me suis entourée d'un duo que même Lovecraft hésiterait à invoquer. On raconte qu'il hante les couloirs de la tour Proxy Jeux depuis si longtemps que plus personne ne sait quand il y est entré. Mais une rumeur persiste. Il ne connaîtra le repos que lorsque l'on aura lu 1 million de commentaires à voix haute. D'ici là, il continue d'analyser et d'effrayer les game designers imprudents, le slasher. Voici le pionfesseur.
Salut, salut. Et j'ai revêti ma voix horrifique aujourd'hui puisque je suis malade. Donc je sais pas si ça fera peur aux gens, mais voilà.
Pas besoin de modificateur de voix. C'est bon, tu es dans le thème.
Ouais, c'est ça. C'est ma voix de slasher. Par contre, je ne tue pas les game designers, je tue les auteurs. Attention, je précise.
Ni tout à fait vivant, ni complètement mort. Moitié alien, moitié zombie. Un Xenobi né de la collision entre deux extensions mal équilibrées. Ces chroniques surgissent toujours là où on ne les attend pas, entre la science-fiction et le cri primal. Bonsoir, Kurtz.
Pardon. Bonsoir, salut Caducé, salut Pionfesseur, bonsoir tout le monde.
Je suis Caducé, et en tant qu'humble gardienne de ces ondes maudites, je troque la blouse pour prendre le rôle de la Final Girl. Je resterai debout quand tout le monde aura disparu et refermerai les portes une fois le rituel terminé. Ce soir, nous allons explorer la peur sous toutes ses formes ludiques, celle qui nous fait rire, celle qui nous unit et celle qui nous glace les dés. Premier rituel, remercions nos donateurs et donatrices qui nous permettent de réaliser et diffuser nos émissions.
Nous remercions Sam Chakit, Olfen, Paul, la famille Gerpet, Yann Le Proto, Kij, Tespios, Strugarek, Fendoel.
Et on remercie également Gaume, Bobby Fada, B1, Wallring, Gnocchiflette, Robinocrite et Kinarbre.
Et nous remercions également la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt. Et c'est également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.fr. On va prendre le temps de revenir sur les commentaires du dernier dossier qui concernait la mise en scène avec Mad, Cyrus et vous deux messieurs. On a eu pas mal d'échanges sur le Discord et 13 commentaires sur le site.
Ah, ouh, le malheur.
Professeur, je te laisse la parole.
Yes, et ben du coup, merci pour tous les petits commentaires. Il y a eu des commentaires évidemment pour nous dire qu'ils ont kiffé le dossier et donc ça fait plaisir. Mais j'ai relevé quelques petits commentaires un petit peu plus particuliers sur lesquels on peut revenir. Notamment, il y a la sœur de Mad qui est venue commenter pour nous dire que tout allait bien, malgré la fameuse anecdote que vous ne pourrez entendre que si vous écoutez le dossier. Bim, vous avez vu comme je fais des transitions pour que les gens ils aillent écouter le dossier si jamais ils ne l'ont pas écouté. Ensuite, autre commentaire, on a Peter qui est venu me corriger parce que j'ai dit une bêtise sur Great Western Trail. Donc lui, tu vois, ça le réveille tout de suite et il vient mettre un commentaire. Parce que effectivement, ça devait être un truc par rapport à la mise en scène sur les pistes de score. Et je disais, j'avais cité Maracaibo et Great Western Trail comme exemple de jeu un peu salade de points où t'as le plaisir d'avancer sur ton score au fur et à mesure. Mais c'est une erreur, effectivement, parce que dans Great Western, tu mets tous tes points à la fin. Donc il n'y a pas de piste de score, c'est complètement bête ce que j'ai dit. Ça ne s'applique que pour Maracaibo. Donc voilà, ça c'était le commentaire de Peter. Bon, il a dit plein d'autres choses intéressantes sur les pistes de score, vous irez voir. On a aussi Delotte qui a balancé plusieurs anecdotes sur la mise en scène qui était très cool. Mais je retiens notamment des anecdotes qu'il avait racontées sur Magic, où il disait qu'en fait, il faisait exprès de faire des moves, on va dire. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il faut vraiment savoir jouer à Magic pour piger le truc. Mais des espèces de mise en scène pour bluffer son adversaire, pour un peu l'intimider et lui faire croire que genre il avait des bonnes cartes en main alors qu'en fait non quoi. Et Kurt d'ailleurs, bah, t'étais venu répondre dans les commentaires pour nous expliquer que ça s'appelle la théorie du handicap. C'est en biologie, je crois, c'est ça ?
Ça marche dans la nature, mais ça marche aussi dans les jeux. La théorie du handicap, c'est si au poker, vous avez une main de merde, vous faites all-in pour que l'adversaire pense que vous avez une bonne main. C'est vous vous handicapez volontairement, mais ça existe dans la nature. C'est la gazelle qui va faire des sauts vachement haut quand elle est poursuivie pour que le prédateur derrière pense que ouais, celle-là, elle en a encore sous le capot, je vais peut-être attaquer une autre bestiole, alors qu'elle a plus rien sous le capot. Voilà, c'est ça la théorie du handicap, pour faire simple.
Ouais, c'est le bluff dans le sens... on joue plus que ce qu'on a, quoi.
C'est ça. Ah, tu donnes tout sur un dernier coup pour faire croire que t'en as encore, que tu peux encore donner derrière.
Pour faire peur.
Ça peut.
Après, il y a eu plusieurs commentaires aussi, que ça soit sur le Discord ou sur le site. Il y a eu plusieurs commentaires autour des dés. Il y a vraiment plein de gens qui ont dit, ah, mais oui, les dés, c'est vraiment, tu sais, le truc typique de mise en scène dans les jeux de société. Ou tu sais, genre, tu vas souffler dessus pour porter la chance, tu vas les secouer longtemps dans tes mains ou des trucs comme ça. Du coup, c'est assez rigolo de voir un peu tous les rituels que les gens, ils ont autour des dés, quoi. Et dernier commentaire sur le site que je dénoterai, c'est le commentaire de Kinarbre qui comparait le jeu de société avec des autres arts, où il disait que justement, ce qui est intéressant dans ce qu'on disait finalement dans nos quatre interventions, c'est que finalement, dans les autres arts, il y a une distinction assez nette entre l'auteur, ou du moins le scénariste, le compositeur, la personne qui crée l'œuvre, les spectateurs qui reçoivent l'œuvre, le metteur en scène, le réalisateur, enfin ça dépend du média hein, évidemment, mais la personne qui définit comment cette œuvre va être communiquée au public du coup, c'est l'espèce de entre-deux quoi, et éventuellement dans les arts vivants, les personnes qui interprètent l'œuvre, donc là ce seraient les acteurs au théâtre, le musicien lors d'un concert ou des trucs comme ça. Et il disait, ce qui est marrant, c'est que le jeu de société, on dirait que, je reprends sa phrase, elle est très bien formulée, il dit, le jeu de société prend un malin plaisir à brouiller ses lignes. Que effectivement, on arrive, à chaque fois qu'on essaie de faire une métaphore, on a du mal à se dire, ok, qu'est-ce qui est réellement le spectateur, qu'est-ce qui est réellement l'acteur, qu'est-ce qui est réellement l'auteur, etc. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et avant de conclure, on va aussi parler vite fait du Discord, où on a eu de nombreux échanges. Mais je retiens notamment que il y a Robin Ocrit qui a lancé une conversation sur en fait les coups qui sont faits soit par panache, soit de manière humoristique, soit des trucs comme ça. C'est un cas typique qu'on retrouve quand on est, vous savez, en fin de partie et qu'on sait qu'on a déjà perdu, mais que du coup on joue un peu entre guillemets pour l'honneur, ou alors au contraire pour faire chier quelqu'un. Ou alors parce que c'est drôle de se mettre à zéro point, tu sais, de jouer le plus mal possible et des trucs comme ça. Et c'est assez intéressant, on est allé dans plusieurs directions différentes, mais de voir que, effectivement, finalement, ces coups-là, c'est une forme de mise en scène. Quoi.
Foutu pour foutu.
Ouais, voilà, t'es foutu pour foutu, tu dis maintenant je vais faire le beau jeu, ou des trucs comme ça, quoi. Et voilà, tous les petits commentaires que j'ai réunis.
Merci. Kurt, est-ce que tu as des choses à rajouter, ou est-ce qu'on entre dans le vif du dossier ?
Non, non, rentrons dans le vif du dossier, allons-y.
Ok, alors ce soir, au sommaire, on commencera avec le pionfesseur, qui a intitulé sa chronique « Comment le milieu du jeu de société s'auto-convainc de faire des jeux nuls ?» Promis, ça aura un rapport avec le sujet. On écoutera ensuite Kurt, tu nous parleras des jeux qui font peur, ou pas. Et enfin, je terminerai avec la peur au sens large, plutôt dans le sens crainte et appréhension dans la pratique de notre loisir. Je vais donc te laisser la parole, pionfesseur, avec ta chronique « Comment le milieu du jeu de société s'auto-convainc de faire des jeux nuls ?»
Tout à fait. Eh ben, effectivement, moi, en fait, ma chronique, elle part d'un constat personnel. En fait, moi, j'avais passé un coup, une soirée, à chercher les jeux de société, genre, qui me faisaient vraiment peur, mais dans le sens, vraiment, les plus horribles qui existent, genre, les plus dégueulasses ou les plus immoraux. Bon, voilà, bref, pour moi c'était un mardi soir comme les autres, hein, voilà. Mais je me suis vite rendu compte que j'arrive pas à trouver des jeux qui soient aussi immoraux ou qui me mettent autant mal à l'aise que ce que je peux trouver, par exemple, dans la musique ou dans le cinéma, enfin, dans d'autres médias, quoi. Et quand je faisais mes recherches sur Board Game Geek, il y avait une phrase qui revenait souvent, c'est des gens qui disaient « on ne peut pas faire de l'horreur en jeu de société ». Et ils avaient un argument que je trouve assez flingué, qui était de dire « en fait, on connaît les règles quand on joue à un jeu de société, on est obligé d'apprendre les règles pour pouvoir exécuter le jeu, donc le jeu ne peut pas nous surprendre avec de l'inconnu, et donc ce serait pour ça qu'on ne peut pas faire de l'horreur, quoi ». Alors, on va quand même démonter cet argument, même si je pense qu'en réfléchissant plus de 5 secondes, on peut le démonter assez facilement. Déjà, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez déjà joué à un jeu dans votre vie? Connaître les règles, ça ne dispense pas du tout d'avoir de l'inconnu dans un jeu. Là, je peux ramener à ma chronique sur l'inconnu, mais en fait, vous prenez, je sais pas, n'importe quel jeu à rôle caché, n'importe quel jeu où des gens ont des cartes en main, en fait, ça vous suffit à avoir de l'inconnu. N'importe quel jeu où vous lancez des dés, en fait, n'importe quel jeu qui n'est pas abstrait, il y a de l'inconnu dedans et vous pouvez être surpris par une révélation ou par un résultat du hasard. De plus, je dirais que si c'est éventuellement le contenu qui pose problème, ça pourrait être ça la take, de dire que bah oui, même, je sais pas, dans les loups-garous, il y a des rôles secrets, mais je sais quels sont potentiellement les rôles secrets, donc je connais déjà le contenu à l'avance. Bah moi j'ai envie de dire, ça existe des jeux dont vous ne connaissez pas le contenu à l'avance, ça s'appelle des legacy, ou alors des jeux en campagne, enfin des trucs où vous allez lire un scénario au fur et à mesure, ou alors ouvrir des petites enveloppes ou des petites boîtes qui contiennent du contenu que vous connaissez pas à l'avance. Donc c'est complètement faisable de vous surprendre avec du contenu. Et même si on ignore les jeux legacy, en connaissant le contenu à l'avance, moi, j'ai un contre-exemple qui serait les rituels d'horreur. C'était encore une chronique que j'avais fait pour un épisode de chronique d'Halloween, justement, où justement les rituels d'horreur, c'est des trucs un petit peu comme Bloody Mary. Tout le monde connaît ce truc-là. Vous savez, il faut répéter 3 fois devant le miroir Bloody Mary, machin. On est à la frontière du jeu, parce que c'est pas du jeu de société, quoi. C'est plus du jouet, je dirais. On est plus dans ce truc-là parce qu'on peut pas vraiment gagner ou perdre. Mais on pourrait imaginer des jeux de société comme ça. Et pour moi, les rituels d'horreur, c'est des trucs où justement tu connais le contenu à l'avance. Et c'est ça qui est flippant, justement, c'est de se dire, oh putain, en fait, je sais ce que mon imagination peut s'imaginer qui va arriver si je respecte les règles du jeu. Voilà, il va y avoir un monstre qui apparaît dans ma salle de bain ou je sais pas quoi en l'occurrence. Et puis de toute façon, en fait, moi j'ai envie de dire, si on oublie même encore ces exemples-là, juste à partir du moment où il y a d'autres joueurs, donc la plupart des jeux de société se jouent en multijoueur, hein, bah c'est possible de faire tout ce qui se fait je sais pas autour d'un feu de camp quand on se raconte des histoires, quoi. Donc on peut très bien avoir les autres joueurs qui représentent cet inconnu ou ce truc qui va nous faire peur, quoi, hein. Évidemment, argument ultime, en fait, j'ai moi-même joué à des jeux de société qui commençaient à toucher à l'horreur ou à des choses immorales ou à des choses dégueulasses, hein. Je rappelle, c'était les trucs que je cherchais à la base. Donc en fait, si ça existe, c'est bien que c'est possible. D'ailleurs, petite remarque, mais depuis j'ai trouvé une autre phrase un peu similaire quand je cherchais des jeux vidéo humoristiques, des jeux vidéo marrants. C'est marrant parce que j'ai trouvé le même argument dans le jeu vidéo. Il y avait des gens qui disaient « Ah mais vous savez, c'est pas possible de faire des jeux vidéo d'humour, c'est pas possible de faire des jeux vidéo qui vous font rire, etc. » Je trouvais ça marrant parce que vous voyez, c'est le même genre de phrase un peu catégorique qui essaye de mettre des bornes à un média alors qu'il n'y a pas besoin d'en mettre, quoi. Donc voilà, donc je rappelle que ça soit l'horreur, l'immoralité, des trucs comme ça, mais en fait même pour d'autres sentiments, on va avoir ce genre de justification un peu pété pour dire que c'est soi-disant pas possible en jeu de société. Je sais pas, par exemple, je me rappelle que pour la tristesse, j'ai souvent aussi ce truc-là, parce que les gens ne connaissent pas des jeux tristes, donc ils vont vous dire « Ah mais ouais, mais du coup c'est pas possible de faire des jeux de société qui évoque la tristesse, quoi. » Donc moi, pour vraiment contredire jusqu'au bout ces personnes, j'ai réfléchi pendant très longtemps, je me suis cassé la tête et tout, et bon, ça m'a pris environ 30 secondes, en vrai, et je me suis dit, mais en fait, on peut prendre juste un exemple. Moi, j'ai réfléchi, j'ai pensé à La Quête du Bonheur. Le jeu de société, La Quête du Bonheur. C'est un jeu que je trouve très cool, parce qu'en fait, il est très réaliste, il est très naturaliste, c'est-à-dire que j'ai l'impression vraiment de vivre la vie d'un être humain normal. Mais, en fait, il y a un gros angle mort dans ce jeu pour que ça soit totalement réaliste, c'est que, à peu près tout ce qui se passe dans le jeu est positif. En fait, on fait que gagner du bonheur dans le jeu, c'est l'équivalent des points de victoire. Et donc, voilà, c'est cool, on a des amis, on a des amours, on a... Même le travail, ça vous rend heureux, c'est incroyable. Et en fait, du coup, c'est un peu gnangnan, c'est le problème du jeu. Alors que moi, en fait, je voudrais que d'un coup, bam, dans le jeu, il y a genre ma copine virtuelle, là, du jeu, et ben elle meurt d'un cancer foudroyant, quoi. Et c'est genre giga triste, vous voyez. Ou alors, genre, je rentre chez moi et j'apprends que ma meuf, elle a disparu en butant et en enterrant des enfants dans le jardin, quoi, vous voyez. Et là, c'est vraiment effrayant parce que on se retrouve face à un jeu qui est très réaliste, qui essaye d'être très réaliste, et d'un coup on a un truc qui nous rappelle en fait la cruauté du vrai monde, quoi, des choses qui se passent réellement dans la vraie vie. Bon, là j'ai pris des cas un peu extrêmes, hein, mais on peut imaginer des trucs qui arrivent quand même à plein de monde. Là j'ai parlé du cancer, je suis désolé, ça arrive à peu près à tout le monde, quoi. Et je pense que c'est bien plus effrayant qu'une grosse figurine de Cthulhu là, un peu cartoonesque, qu'on retrouve dans certains jeux, quoi. Et en plus, ce serait même pas la découverte du contenu qui ferait vraiment peur. Il faudrait genre que ça soit un truc qui arrive même pas à chaque partie, que globalement on vive une vie normale, mais que genre une partie sur 10, bah, il se passe un truc giga triste ou grave ou glauque, quoi. Voilà, là c'est juste une idée, ok, que j'ai eu en 30 secondes. Donc imaginez si moi je commence à faire des petits protos comme ça, de jeux d'horreur comme ça qui font vraiment peur ou qui sont vraiment immoraux ou qui sont vraiment dégueulasses. Ok, si je passais réellement du temps à peaufiner mon concept, genre dans mon garage avec mon petit fer à souder, tout ça, avec un montage comme dans Rocky, là où mon jeu il va progresser au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il arrive à son état final, qu'est-ce qui va se passer quand je vais venir présenter mon jeu à des éditeurs? Bah évidemment ils vont me le refuser, parce que ça va être un jeu qui va pas être assez dans la moyenne pour eux. Hein, ils vont se dire, oh non, mais en fait, t'es con, personne va acheter un truc comme ça qui est vraiment immoral et dégueulasse, quoi. Et donc, en fait, c'est là où je veux en venir. C'est que, en fait, les éditeurs, ils vont créer des espèces de prophéties autoréalisatrices, on appelle ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont s'auto-persuader de quelque chose, genre, les joueurs ne veulent pas de jeux effrayants. Ou alors, les joueurs ne veulent pas jouer à des jeux tristes. Hein, ils veulent des trucs fun, par exemple. Hein, ou alors, vous savez, quand ils s'auto-convainquent aussi, quand ils disent, les joueurs n'achètent que des boîtes pleines de vide. Okay, c'est un classique, un exemple un peu tarte à la crème. Mais du coup, quand ils s'auto-convainquent de ça, bah ça fait qu'ils ne font que éditer des jeux comme ça. Et ça va créer un biais de cadrage dans toutes les possibilités de game design. Hein, moi, j'aime bien m'imaginer le game design comme une grande carte du monde, comme ça, d'un monde virtuel, le monde magique du game design. Et en fait, on n'a pas du tout tout exploré. Mais en fait, les éditeurs mettent des sortes de murs autour de là où on est actuellement, en disant non, mais ces contrées là-bas, ça n'intéresse personne, vous voyez. Et du coup, en fait, ils n'osent pas prendre de risques. Ils n'osent pas éditer des trucs qui seraient en dehors de ce cadre. Et ça fait que, vu qu'il y a ce biais de cadrage, les gens, en fait, vont être persuadés que ce cadre, c'est la limite ultime du game design. Alors qu'en fait, c'est un cadre qui a été créé bah, par eux-mêmes, quoi, par les éditeurs. Quoi. Voilà, donc quand je dis les joueurs, en fait, c'est un peu plus large que ça, parce que, en fait, c'est aussi c'est à la fois le milieu, les auteurs aussi. Hein, les influenceurs vont aussi diffuser beaucoup cette idéologie. Mais du coup, les auteurs eux-mêmes vont se persuader que s'il en est ainsi, c'est parce que le game design, ça marche comme ça. On peut pas faire des jeux d'horreur. On peut pas faire des jeux vidéo d'humour. On peut pas faire des jeux tristes, etc., etc. Et que donc, notamment pour les jeux d'horreur, bah, on peut pas les faire parce que genre, c'est genre impossible ou alors c'est très très difficile, tu comprends, ça serait vraiment pas possible en 30 secondes de repomper juste n'importe quelle idée qu'on voit dans tous les autres arts et de l'adapter en jeu de société. Non, oh là là, c'est trop compliqué pour moi, auteur, voilà. Donc bref, je vais arrêter avec mes petites takes et je vais vous laisser un peu la parole, mais pour conclure, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le game design en soi qui nous empêche de faire des jeux d'horreur, mais c'est plutôt les lois du marché qui cherchent à promouvoir des jeux, on va dire, médiocres dans le sens moyen, des jeux qui se ressemblent tous, voilà, en général. Et donc, moi, j'ai envie de dire des jeux nuls, si je devais faire une petite formule un petit peu provocatrice. Mais de toute façon, on verra bien dans les chroniques suivantes, notamment celle de Kurt, qu'il existe des jeux d'horreur. Enfin, j'imagine, je ne veux pas présumer de ta chronique, Kurt. Voilà.
Des jeux qui font peur, c'est possible. Ouais.
Des jeux qui font peur, c'est possible. Voilà, je ne sais pas ce que vous en dites, vous deux, de tout ça.
Bah, écoute, moi, je voulais savoir si toi, tu avais quelques contre-exemples quand même, ne serait-ce que par rapport à l'exemple que tu donnes sur la quête du bonheur.
Oui.
On avait parlé de Funny Friends, de oui. Friedman Freeze.
Tout à fait, ouais.
Qui est un petit peu ce genre d'idée-là, où tu vas avoir l'impression réellement de faire... évoluer ton personnage, mais contrairement à la quête du bonheur, là les destins sont et les situations sont beaucoup plus sordides, donc ça y fait quand même pas mal écho. Et c'est vrai qu'à chaque fois que tu évoquais ce frein sur certaines thématiques, je pensais assez facilement à des jeux de rôle qui au final me semblent effectivement beaucoup plus permissifs que le jeu de société auquel on est habitué, ne serait-ce que pour ce qui peut être très connu, Alice is Missing, qui va explorer des sentiments qui peuvent être effectivement très tristes. Mais au final, j'avais pas beaucoup de contre-exemples sur du jeu de société un petit peu connu, sans parler d'horreur, puisque Kurt, tu vas en parler juste après, mais sur des thèmes un petit peu plus, on va dire, glauques ou immoraux, comme tu l'as cité au début de ta chronique. Hein.
Alors, pour juste te répondre, déjà, ouais, très bonne remarque sur le jeu de rôle, qui est que, effectivement, en fait, les jeux de rôle, ça fait très longtemps qu'ils explorent la peur, puisque un des premiers, enfin, pas parmi les premières dizaines d'années du jeu de rôle, il y a eu l'appel de Cthulhu, qui est encore très connu aujourd'hui et qui explore une forme d'horreur. Et pour le coup, c'est pas du tout le même genre d'appel de Cthulhu qu'on trouve dans les jeux de société, tu vois. On va être plus sur le vrai mythe de Cthulhu avec ce genre, tu sais, d'horreur cosmique. Horreur, je sais pas comment vous appelez ça.
Cosmique, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Hein. On dit, comment c'est là où weird fiction, un truc comme ça, là. Un truc comme ça, bon, bref. Et du coup, on est beaucoup plus sur un truc... moins cartoonesque en tout cas que ce qu'on a dans le jeu de société. Après, pour ce qui est de l'exemple de Fiese Freunde Fete Feten, donc de Friedman Friese, je trouve que c'est un jeu qui est pas si immoral que ça, ou alors il l'est, mais d'une manière un petit peu rigolote. En fait, c'est un peu comme des jeux comme Runta. On va jouer des ministres ou des présidents ou des trucs comme ça dans une république bananière. Et en fait, on joue des gros connards, quoi, tu vois. Mais en fait, quand tu joues, la tonalité du jeu est très humoristique. Ça se voit même, tu sais, dans la manière dont ils parlent, dans les règles, etc. Mmh. Et on n'est pas là pour se dire « Oh là là, c'est horrible ce qu'on fait ». Tu vois, tu te sens pas mal à l'aise, en fait, quand tu joues à ça.
Oui.
Par contre, oh, si je veux citer le jeu immoral, un jeu bien immoral, vous pouvez jouer à Judenhaus, donc un jeu qui a été fait par les nazis avant qu'ils aient le pouvoir, je crois. Donc dans les années 30, un truc comme ça. Et où donc le but, c'est de... comment dire, c'est de prendre des juifs et de les sortir de la ville comme ça.
Oh,
c'est un jeu pour enfants. Donc c'est un petit Roland Move pour enfants comme ça. Et toi, tu dois aller choper les nazis dans leur, choper les juifs dans les boutiques et les foutre en dehors de l'enceinte de la ville comme ça. Et du coup, bah voilà, ça c'est carrément immoral, tu vois. Et tu sais que ceux qui l'ont fait, comment dire, ils l'ont fait au premier degré puisque bah c'était les nazis à l'époque, tu vois. Ouais, je sais pas si c'est un bon exemple, mais
ouais.
ça peut te mettre mal à l'aise. Mais on n'est pas dans l'horreur, là. Hein.
Non, on n'est pas dans l'horreur, non.
Je fais exprès de pas parler d'horreur, parce que j'ai pas envie de, comment dire, de spoiler la chronique de Kurt.
Ah, mais je suis pas dans l'horreur. Hein. Moi, j'ai vraiment tenté de rester dans la peur. Hein. Donc, la peur. Mais après, dans le genre de jeu, un jeu qui reste généraliste avec des gros guillemets, des grosses pincettes, This War of Mine... Même si, je sais plus avec qui j'en ai discuté une fois, je crois que c'était Lana qui avait fait des yeux immenses, où je lui avais dit, mais ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Mais ça reste déjà, je vais pas donner d'exemple parce que voilà. Mais ils auraient pu aller beaucoup plus loin dans This War of Mine, mais ça reste un jeu où les choix que tu fais sont quand même pas sympas dans l'ensemble, hein, de toute façon.
Oui, mais ce qu'on appelle, tu sais, des dilemmes moraux, quoi.
C'est ça.
Du coup, c'est là que tu peux toucher un peu à tu sais, des espèces de flou en termes de moralité, quoi. Mais du coup, alors, si je peux citer un exemple de peur, alors, si tu me dis que ça gâche pas ta chronique après. Alors, comme dit, en fait, on sera jamais dans un truc aussi fort que ce que je trouve dans d'autres médias, parce que, bah, encore une fois, ils osent pas faire des trucs de fou dans les jeux de société. Mais moi, récemment, j'ai fait Vagrant Song, et je trouvais que dans Vagrant Song, on touchait enfin à des trucs qui font vraiment... des situations qui sont vraiment un peu flippantes, tu vois, où... j'essaye de pas spoiler, mais on est dans un truc vraiment plus proche justement du Lovecraft, comme je dis, dans les jeux de rôle, quoi, ou dans les nouvelles qu'il écrit. Tu vois, t'es vraiment dans un truc où ça devient vraiment bizarre et incompréhensible ce qui se passe. T'es juste paumé et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ça? C'est bizarre. Et en même temps, ça signifie des trucs symboliquement qui sont un peu... qui peuvent te mettre mal à l'aise, tu vois. Donc ça c'était cool, tu vois. Ça, j'ai bien aimé dans Vagrant Song.
Ok, en tout cas, moi, je retiens ton incitation à pousser une nouvelle fois les bornes de la création.
Ouais, carrément, bah, toujours.
Bah oui, parce que en fait, quand tu dis ce genre de ton argument là, de les éditeurs, ils veulent pas parce que ça me fait forcément penser au cinéma.
Oui.
Où effectivement, Marvel va faire plus d'entrées que le petit film d'arrêt d'essai. Mais le petit film d'arrêt d'essai fait des entrées. Et s'il n'y avait pas les petits films d'arrêt d'essai, qui sait ce qu'on n'aurait pas découvert des tas de réalisateurs qui sont passés, d'réalisateurs, d'acteurs, de scénaristes, etc., etc., qui seraient pas passés dans le généraliste derrière. Aucun des mots que je viens d'utiliser n'est un gros mot. Et on voit bien, de toute façon, il y a des tentatives qui sont faites de temps en temps dans le jeu. Ça sera peut-être, mais ça va être compliqué.
Très bien, messieurs. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou est-ce que je laisse la parole à Kurtz?
Non, c'est bon pour moi.
On passe ensuite à la chronique de Kurtz qui s'intitule « Les jeux qui font peur ou pas ».
Voilà, donc moi je vais vous parler, j'ai choisi une poignée de jeux qui, de mon point de vue, et racontés de la bonne façon, peuvent générer le sentiment de la peur. Je vais vous parler d'un jeu, on en discutera après, et puis on verra où ça nous mène tout ça. Il y a des jeux qui s'ouvrent comme des fêtes, légers, brillants, inoffensifs. Et puis il y a les autres, ceux qui s'ouvrent comme une plaie, ceux qui rampent sous la peau, qui s'installent dans vos veines, qui se nourrissent de ce que vous ne contrôlez pas. Pas de vos points de victoire, pas de vos ressources, de votre peur, de vos tremblements, de votre sueur. Les cartes qui hurlent. Arkham Horror, le jeu de cartes. Tout commence doucement. Des cartes, de simples rectangles de carton. Rien de plus. Mais chaque pioche devient une morsure. Vous savez que la prochaine carte va être une horreur. Vous savez qu'elle va vous briser, ralentir votre souffle, enfoncer vos certitudes. Et malgré tout, vous la retournez. Vos doigts tremblent, la pulpe colle à l'encre. Le carton glisse, mais vous brûle les yeux. Chaque symbole occulte devient une lame de papier, fine, précise. Elle ne vous tranche pas net, elle vous entaille, millimètre par millimètre, et vous revenez, encore. Vous tendez les mains pour recevoir une nouvelle coupure, parce qu'au fond, vous aimez ça, cette douleur, cette peur, ce plaisir trouble d'un poison que vous choisissez d'avaler. J'ai commencé par un petit jeu léger. Horror Arkham, le jeu de cartes. Est-ce que vous pensez que ce jeu peut générer la peur?
Je pense déjà que t'écris mieux que les gens qui écrivent dans Horror Arkham et que tes textes feraient plus peur, je pense déjà.
Alors, après, on va devoir étendre la discussion aux diverses sensibilités aussi. Puisque le ressenti de peur, on va pas tous y être sensibles de la même manière. Est-ce que le jeu de cartes Horreur à Arkham a des particularités qui permettent de favoriser ce sentiment de peur qui peut naître autour de la table ?
Moi perso, pour le coup, je suis extrêmement client, genre de la peur. Alors client dans le sens, je suis très sensible. Voilà, je veux dire, c'est-à-dire que moi, il y a plein de films, genre, je peux pas les regarder. Il y a des jeux vidéo, je peux pas y jouer parce que ça me fait trop peur, en fait. Tu vois, je suis très très sensible à ça. Mais du coup, c'est pas que j'aime pas, tu vois, c'est que après, je peux plus dormir, tu vois.
Alors, c'est parfait parce qu'on va être complètement à l'opposé. Ah ouais, vraiment. Que ce soit au cinéma ou. Bah, en fait, c'est vrai que le cinéma, l'exemple est peut-être le plus facile à citer.
C'est le plus immersif. Hein.
Oui. Oui, et puis c'est le point de repère qu'on va tous avoir peut-être en commun. Non, j'ai pas d'éléments qui me font peur. J'ai des choses qui vont me mettre mal à l'aise, mais c'est complètement différent du sentiment de peur. Et donc sur ce plan-là, ça va être intéressant parce que moi, je vais pas du tout avoir peur. Je pense qu'il faut vraiment aller très loin pour que je puisse ressentir la peur en tant que sentiment.
Et Kurtz, toi, t'es où par rapport à notre échelle, l'échelle pionfesseur caducé, tu vois?
Eh ben, au milieu.
Ah, putain, c'est bien.
J'ai pas particulièrement peur, sauf de certaines conditions. Par exemple, je ne supporte pas les films de fantômes.
D'accord.
Je ne crois pas aux fantômes, je me force à aller voir des films de fantômes, et à chaque fois, j'en ressors dans un état lamentable. Ça me fait du bien, hein, mais les films de fantômes, je peux voir n'importe quoi, ça passe, mais les films de fantômes...
Ouais, alors après, c'est vrai aussi que, tu vois, il y a différents types d'horreurs aussi. Moi, par exemple, tu vois, ce qui va être le gore, ça me fait moins peur que le reste, tu vois. Donc, moi, ce qui me fait plus peur, tu sais, c'est le... Je sais pas comment on appelle ça, le psychologique, là, tu sais, des fois, on appelle ça comme ça. Mmh. Ou les jumpscares, les trucs, tu sais, qui te sautent à la gueule, là, je déteste ça. Tu vois, les trains fantômes, je peux pas aller. Mais alors, du coup, Horreur à Arkham, pour le coup, ça ne me fait quasiment pas peur, tu vois, on va dire. Mais je trouve quand même que les textes... Disons que c'est pas le gameplay qui va me faire peur, mais c'est vrai qu'il y a des textes qui me mettent un peu mal à l'aise. Mais je trouve que globalement, ça va, on est quand même... vraiment dans de l'horreur, comment dire, pouette-pouette, tu vois, c'est vraiment...
De l'horreur convenue.
Alors, bah, moi, l'exemple vraiment que je peux citer, c'est Cthulhu Death May Die, tu vois. je sais pas si tu comptais le citer plus tard, mais je pense pas si tu dis que Arkham c'est le moins pire, tu vois. Cthulhu Death May Die, tu vois, c'est l'archétype de, on a pris Cthulhu juste pour la licence, mais en fait ça a pas rien à voir avec, tu vois, l'ambiance de Lovecraft. On est vraiment sur un truc beaucoup plus Indiana Jones, pam pam boum boum aventure, tu vois.
Mais j'ai eu le cas dans des tas de jeux que je veux pas forcément citer, ou qui pourtant Shining. Vraiment, alors ce film-là est exceptionnel au niveau de la peur. Le jeu, pff, une balade, quoi. Enfin bon, voilà.
Bah, ou Zombicide, tu vois, t'es vraiment dans le truc d'arcade.
Ouais, 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 bien sûr.
Zombicide, c'est un peu un hommage à Left 4 Dead, le jeu vidéo, tu vois. Donc, t'es plus dans un truc d'arcade. Et du coup, t'as pas vraiment la peur. Alors que, du coup, Horror à Arkham, tu vas l'avoir un tout petit peu grâce au texte. Mais je trouve que t'es quand même plus dans de l'horreur poète-poète.
Voilà. Oui, bien sûr, dans Zombicide, t'as beau être entouré de toutes parts, rien pouvoir faire, etc. Savoir que tu vas te faire bouffer au prochain tour, ouais, ça passe.
Donc j'imagine, si moi ça me fait pas peur, j'imagine que vous non plus, Horror à Arkham.
Non.
Non.
Non, non.
Alors tu vas monter crescendo, Kurt ?
On va monter crescendo.
Ah, allez.
On va monter d'une marche et voir où est-ce que ça nous mène. La peur des autres, Dead of Winter. Puis vient une autre peur, pas celle du monstre, pas celle du froid, celle de vos proches. Vous êtes ensemble, assis, unis autour d'une table, une colonie de survivants, une communauté qui tente de résister. Mais dans chaque sourire, dans chaque regard, dans chaque promesse de fidélité, se cache peut-être une trahison. Un joueur ment, un joueur sabote, un joueur condamne tout le monde en silence. Alors les rires deviennent secs, les mains tremblent sur les cartes, les regards se forment de soupçons. Vous accusez, vous menacez, vous trahissez. Et quand la partie se termine, tout le monde rit à nouveau. On dit « c'était drôle !» On range les pions, on se tape dans la main. Mais dans votre poitrine, il reste une fissure. Petite, discrète, mais assez pour que, plus jamais, vous ne regardiez vos compagnons de jeu de la même façon. Dead of Winter, étape 2.
Grave intéressant, parce que effectivement, c'est un autre type de peur. C'est l'espèce de peur de se rendre compte de motifs sociaux, un peu, tu vois. De... Ah oui, en fait, dans certaines situations, les gens peuvent être des gros connards, tu vois, c'est un peu ça le truc, qui est propre au genre de la social déduction, en fait. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont très affectés par ça, alors que moi, pas du tout, tu vois. Moi, vraiment, j'arrive à... Si tu veux, là, le cercle magique du jeu, je reste dedans, et quand j'en sors... Il y a une nette distinction et je peux me comporter comme le pire des connards dans le jeu parce que, si tu veux, je me dis c'est l'esprit du jeu, tu vois, il n'y a pas de souci. Et là, du coup, je fais vraiment un distinguo entre les gens qui sont dans le jeu et les gens en dehors, tu vois.
Ouais.
Donc zéro peur pour moi. J'ai plus peur d'Horror Arkham que de celui-là.
Mmh. Ah, bah écoute, chacun fera son petit escalier après de son côté.
ouais, grave.
Non, la peur de la trahison, c'est plutôt quelque chose qui, moi, va me faire rigoler dans un jeu, d'autant plus que c'est attendu. Il n'y aura pas de surprise. On sait qu'il va se passer quelque chose dans ce genre-là, et donc j'aurais pas cette crainte.
C'est ce que disait Pionfesseur, ce serait intéressant, un jeu où on ne sait pas que ça peut arriver, et ça arrive quand même.
Ouais.
Ah, faudrait voir si ça existe quand même, ce genre de jeu. Ou...
Bah, après, tu avais souvent des scénarios de jeux de rôle qui étaient comme ça. Où, tu sais, il y a ce côté, le MJ ne dit à personne qu'il y a un traître, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Mais en fait, tu sais, c'est écrit dans son background ou un truc comme ça, tu vois.
Ouais.
Mais après, tu peux avoir ça théoriquement dans des jeux Legacy. Et je me souviens d'un jeu Legacy qui utilise un effet comme ça, mais je vais pas dire lequel, sinon je spoil. Et que ça m'avait énormément marqué et que j'avais trouvé ça génial, d'ailleurs.
C'est de la surprise plus que de la peur.
Oui, tout à fait, ouais. C'est plus de la surprise. Et en l'occurrence, moi, c'était une bonne surprise parce que pour moi, c'est... Ah, c'est le petit truc de game design, tu vois, c'est savoureux en termes de game design de découvrir un truc comme ça, tu vois. C'est plus ça le sentiment que j'avais.
Bon, bah on va passer à la marche suivante. Alors là, j'attaque du jeu un peu plus obscur, mais vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. La tour qui devient tombeau, Dread. Un geste enfantin, tirer un bloc de bois. Mais dans Dread, chaque mouvement est une exécution en suspens. Vos doigts s'agrippent au bois, vos ongles raclent la surface. La chaleur de la pièce se concentre dans vos paumes moites. Le silence n'est plus un silence, c'est une chape de plomb qui écrase vos poumons. Vous avez peur de faire tomber la tour. Mais surtout, vous avez peur du bruit, des regards, de la déflagration. Quand le bois grince, vos muscles se figent, vos mâchoires se verrouillent. Chaque respiration est suspecte. Chaque souffle menace d'arracher la mort. Et quand enfin la tour s'écroule, le vacarme résonne comme une pierre tombale qu'on referme. Vous riez peut-être, mais c'est un rire crispé, car vous savez, vous venez d'assassiner votre personnage. Dread, c'est un jeu de rôle, où pour savoir si on réussit ses actions, ça se joue avec une tour de Jenga. Si on arrive à tirer la pièce, l'action est réussie. Si ça se casse la gueule, on est mort. Quand j'ai trouvé ce jeu, je l'ai pas, je le possède pas, j'y ai jamais joué. Ce que je regrette énormément, mais quand j'ai découvert ça dans mes recherches, je me suis dit, mais c'est fantastique. Le concept exceptionnel.
Moi, j'ai toujours voulu jouer à Dread, mais j'y ai jamais joué en vrai, tu vois. Parce que,
Tu connaissais, c'est déjà, ça me fait plaisir, tu vois. Ouais.
Quand tu penses jeu de rôle d'horreur, justement, pour moi, c'est un des meilleurs exemples parce que je trouve qu'il allie son système de résolution à ce que tu ressens vraiment physiquement, tu vois, et je trouve ça intéressant. Enfin, ce que tu ressens narrativement, plutôt.
Ouais.
Mais même si j'adore l'idée et que je pense que ça me ferait vraiment peur, parce que de toute façon, moi, j'ai même peur dans des scénarios de Cthulhu, tu vois, je pense que ça me fera vraiment peur, là, pour le coup, et une peur que j'aimerais beaucoup, à mon avis.
Très bien. Ensuite, les yeux qui fouillent Inhuman Conditions. Ici, pas de plateau, pas de dés, rien qu'un face-à-face. Vous et l'autre. Il vous interroge, vous répondez, mais chaque mot s'alourdit. Chaque silence devient une faille. Vous tentez d'être humain, mais à force d'essayer, vous doutez. Votre voix accroche, votre gorge se serre, votre respiration devient irrégulière. Et vous sentez que l'autre vous observe, vous dissèque, qu'il guette vos tics, vos poses, vos maladresses. Et si vous n'étiez pas ce que vous croyez être? Et si derrière vos tremblements se cachait la mécanique froide d'une machine? Et si votre humanité n'était qu'un masque fragile, prêt à se craqueler sous son regard? Inhuman Condition, c'est un jeu à deux, où chacun doit essayer de deviner si l'autre est humain ou pas. Et d'après ce que j'ai compris, on le sait pas soi-même.
Ah bon?
Je sais pas, j'ai pas trouvé beaucoup de détails sur ce jeu-là, mais le principe j'ai trouvé ça exceptionnel, ça m'a fait penser à Blade Runner. Voilà, mais avec un côté un peu plus flippant.
Et si tu n'es pas humain, tu es quoi?
Eh ben, a priori, un robot, une machine.
Ouais. Un robot, d'accord.
En fait, okay. C'est un prétexte pour dire, en gros, c'est la manière dont tu vas répondre à tes questions, où tu vas avoir, tu sais, une genre de contrainte dans la manière dont tu réponds, tu vois.
Ouais.
Tu avais un jeu qui s'appelait Le Monde est fou.
Ouais.
C'était chez Scorpion Masqué, qui était un peu basé sur le même principe. Sauf que tout le monde avait... t'en as un qui joue le psy, qui sort de la pièce, tu vois. Les autres, ils piochent une condition, tu vois, genre... on est obligé de dire un fruit à chaque phrase. Bon, je dis un truc un peu bête, tu vois. Et après, le psy, il revient, et c'est pareil, en fait, il pose des questions, et il doit essayer de deviner c'est quoi l'espèce de fausse maladie mentale, tu vois, que les gens, ils ont, qui est, en fait, une condition... Mais là, j'aimais beaucoup mieux l'ambiance de Inhuman Condition, mais malheureusement, j'ai jamais pu y jouer parce que le mode Tabletop Simulator ne marche pas, et ça m'a toujours fait chier, j'ai jamais pu y jouer.
Aïe, aïe, aïe.
Mais le jeu a l'air très cool, j'ai toujours voulu y jouer.
Bah écoute, on va voir ce que vous pensez du suivant.
Je suis pas sûr que ça me ferait peur, cependant.
Je sais pas. Non, c'est surtout la façon dont c'est raconté qui est pas mal. Ensuite, la lumière qui s'étrangle, 10 candles, 10 bougies. 10 petites flammes qui tremblent. Et dès le début, vous savez, tout est perdu. Il n'y aura pas de victoire. Il n'y aura pas de miracle, seulement la fin. À chaque scène, une flamme meurt. Une bougie soufflée. Une bougie arrachée. La lumière recule. La pièce change. Les ombres s'allongent, s'étirent. Les visages s'effacent. Vous parlez encore. Vous jouez encore. Mais vos mots se perdent dans le noir. Vous êtes déjà seul. Et quand la dernière bougie s'éteint, il reste l'odeur, lourde, rance, de cire froide collée aux doigts, de celui qui s'accroche à vos narines. Même quand vous rallumez la lumière, vos poumons restent comprimés, car Ten Candles n'est pas un jeu, c'est un deuil qu'on vous fait vivre. Voilà, donc comme je disais, Ten Candles, on est plus dans le jeu de rôle. On le sait, on est foutu. Qui est à dehors, c'est vraiment pas cool, et ça va nous avoir, le seul truc qui retient l'extérieur... de nous, c'est ces 10 bougies. Et ces 10 bougies, elles vont s'éteindre. Donc c'est juste un jeu de rôle qui est là pour nous foutre dans le noir et nous faire parler entre nous.
Donc là, t'as vraiment la mise en scène qui participe à la peur, avec l'obscurité qui va s'installer progressivement et tout le fluff que chacun va pouvoir construire autour de ça.
Et le jeu est vendu avec les bougies, donc je pense qu'il doit y avoir un petit truc qui est fait exprès pour que les bougies s'éteignent à intervalles plus ou moins irréguliers, mais s'éteignent régulièrement.
Moi, je crois que c'est des conditions dans le jeu.
dans le scénario, quoi.
Ah, peut-être. Il y a peut-être un moment où on souffle la bougie. Après, je sais pas ce qui est le plus intéressant, mais celui-là, quand je l'ai trouvé dans un coin d'internet, je me suis dit, oh, mais c'est fantastique, cette idée-là.
Ça, je pense, moi, ça me ferait vivre beaucoup d'émotions, pour le coup. Mais encore une fois, t'es dans du jeu de rôle, donc tu triches un peu, tu vois.
Oui.
Mais
j'ai décidé que le jeu de rôle faisait partie du jeu. Voilà, par facilité scénaristique.
Et deux remarques. Bon, premièrement, c'est un truc de fou parce qu'en fait, dans les game jams de jeux de rôle, t'en as toujours qui ramènent des bougies. Il y a toujours des jeux avec des bougies. En fait, il y en a 15 000. C'est vraiment un truc de mise en scène qu'ils aiment bien utiliser, tu vois. Mais Ten Candle, je pense que c'est le plus connu qui utilise ça, du coup. Si on veut faire ça en jeu de société, tu vas parler de Vélociraptor ou pas?
Non.
Parce que il y a aussi ce truc intéressant où on joue des dinosaures avant que la météorite va nous tuer, tu vois.
Oui.
Tu vois, et du coup, il y a ce truc aussi de dire, on va jouer genre 5 minutes ou 10 minutes, tu vois. Et à la fin, on a tous perdu, de toute façon, puisque la météorite va nous buter. Et le but, c'est un peu d'essayer de... Alors, c'est dur de traduire ça en français, mais de cope, c'est-à-dire
faire son deuil.
Ouais, plus accepter, parce que le deuil, c'est un truc plus qui vient après, je dirais. Mais tu vois, d'accepter ton sort, on va dire. Et en jouant à des jeux, en fait, tu vas jouer à plein de mini-jeux, comme une sorte de WarioWare, tu vois, avant de mourir, tu vois. En fait, le jeu est hyper intéressant, sauf à jouer, quoi. C'est-à-dire que tout est intéressant, la partie, raconter ta partie, raconter le jeu. Mais par contre, quand tu joues, c'est pas si ouf, tu vois.
Oui, parce que de toute façon, tu perds.
Ouais.
Donc.
Puis tu sais, c'était plus dans une espèce d'expérience sociale. C'est pour ça que t'es presque dans du jeu de rôle, ouais. Tu vois, dans ce truc-là. Ouais.
Ouais,
très particulier. Mais...
Tout coop, Internet propose faire face.
Ouais, faire face à une situation, c'est pas mal. Mais voilà, tu sais, il y a aussi ce côté tragique, comme tu dis. Donc je trouvais ça intéressant de le citer, quoi.
Ensuite, avant-dernier, le noir qui se colle à la peau, nyctophobia, et puis vient le gouffre, on vous arrache la vue, lunettes opaques, nuit totale, vous devenez un pantin, vos mains s'avancent, maladroites, vos doigts glissent sur du plastique rugueux, accrochent des arêtes, cherchent un chemin, mais rien n'est sûr, rien n'est stable, chaque pas est une menace, car dans le noir absolu, quelqu'un vous suit. Un joueur... Un chasseur, un tueur. Vous ne le voyez pas, vous ne savez pas où il est, vous n'avez aucune arme. Alors c'est votre corps qui réagit, vos jambes se crispent, vos tempes bourdonnent, votre souffle s'affole. Vous n'êtes plus en train de jouer, vous êtes en train de ressentir la peur brute, totale, viscérale. Et quand on enlève enfin les lunettes, vos yeux refusent la lumière, comme si la nuit avait décidé de rester en vous. Nyctophobia, avec un bon maître du jeu, c'est une expérience exceptionnelle. Je sais pas si vous y avez déjà joué à celui-là.
Oui, oui, oui.
Non.
On joue des lambda qui sont perdus dans la forêt. Le but, c'est de retrouver la voiture, mais on est dans le noir. Donc la forêt, c'est un plateau plus ou moins modulable avec des petits arbres, etc. Et on voit pas ce qui se passe. Donc on joue au toucher. Et le joueur qui joue le maître du jeu est le tueur. Lui, il voit très très bien ce qui se passe. Et donc voilà, j'avais fait une partie un jour avec un pote qui avait sorti le couteau, qui faisait des bruits de couteau à côté de nos oreilles, etc. Très 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 bonne expérience. Et t'es pas rassuré, hein, t'as beau avoir toute confiance en ton pote. Vraiment, celui-là, j'en garde un souvenir exceptionnel de ce jeu.
Et tu parlais de lunettes, parce qu'on a des lunettes noires, en fait, pour...
On a des lunettes noires, oui. Alors je sais plus si c'est des lunettes ou des masques.
D'accord.
Mais bon, dans tous les cas, on voit pas...
C'est des lunettes. Ouais.
C'est des lunettes. Ah, les lunettes, c'est moins bien que les masques, parce que tu peux voir sur les côtés.
Mm.
Mais bon, dans tous les cas, il faut que tu t'aveugles. Donc, voilà.
Ouais, j'ai bien aimé l'idée, mais je trouve qu'il y a tellement de trucs pétés dans le gameplay, tu vois. En fait, du coup, tu vois, j'aurais bien aimé voir un jeu suivant de l'autrice, tu vois, qu'elle fasse d'autres jeux pour voir.
Mm.
Finalement, elle a jamais fait d'autres jeux, donc c'est un peu triste, quoi.
Bon, allez, je me lance sur le dernier jeu. Je vous dis, j'ose même pas vous dire le nom, tellement ça fait peur. Un gobelet, quelques dés, rien de plus. Et pourtant, à chaque lancer, quelque chose s'arrache. Vous secouez, vous sentez les dés battre dans vos paumes, comme un cœur qui hésite. Vous les cachez, vous mentez, vous espérez. Mais chaque dé perdu, c'est un souffle qui s'éteint, une parcelle de vous qui tombe, roule, s'arrête net. Autour de la table, les regards deviennent des lames. Chaque sourire un piège, chaque je doute, une morsure dans votre poitrine. Vous essayez de respirer, mais la peur colle à vos côtes. Et quand le dernier dé s'en va, le silence reste. Un silence lourd, comme un corps vidé de son sang. Le jeu ne se ferme pas avec sa boîte. Chaque lancé futur réveillera cette peur, ce manque, ce vide. Et la prochaine fois que vous secourez ce gobelet, êtes-vous sûr de vouloir jeter les dés? Alors, est-ce que j'ai réussi à vous faire peur avec le Perudo?
J'avais capté. Moi, je trouve ça intéressant que tu mettes ça à la fin, tu vois. Je trouve ça... Mais je trouve ça vraiment intéressant, parce que vraiment, peut-être que la take, c'est de dire, est-ce que la peur, c'est quand même pas un sentiment que tu ressens dans énormément de jeux, en fait?
Bah bien sûr, quelque part. Non, mais en fait, je me suis fait la réflexion quand j'écrivais tout ça, et je me suis dit, ok, bah la tour de Jenga, en fait, chaque pièce que t'enlèves, c'est un peu de la vie. Et puis, je me suis dit, mais y a quel autre jeu qui pourrait représenter ça? Et je me suis dit, mais oui, les dés dans le Perudo, est-ce que c'est pas ta vie, quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de twister ça d'une façon un petit peu rigolote? Puis au final, c'était pas rigolo du tout. Mais voilà, j'avais envie de finir, avant ma petite conclusion qui résume tout ça, de voir si on pouvait faire un truc intéressant avec un jeu pas du tout, qui fait pas du tout
après,
peur.
La peur, ça reste la prise de conscience d'un danger, hein, que ce soit un danger de perdre, un danger de... Voilà.
Bien sûr. Ah non, mais c'est ce que disait Pionfesseur, hein. Moi, je suis persuadé que sur une partie de Perudo ou d'un autre jeu qui était pas censé faire peur, j'ai dû sentir la petite goutte de sueur quand il me restait juste un petit truc et que quand il te reste qu'un seul dé et que les autres en ont cinq, t'es pas serein. Hein.
T'as pas parlé d'atmosphère.
Non. Je sais pas, par les atmosphères. Non.
Ouais, atmosphère, ça fait vraiment peur pour le coup. Enfin, moi, typiquement, je vous ai dit, j'ai peur des jumpscares, alors atmosphère, ça me fait peur.
Oui, bah, évidemment, oui. Oui. Je sais pas, atmosphère, quoi en penser. J'apprécie l'idée. Ouais, non, bien, atmosphère, c'est une bonne expérience aussi, effectivement. Le concept était hyper intéressant. Et pour ceux qui auraient leur boîte d'atmosphère avec lesquelles ils pourraient ne plus jouer parce que les cassettes vidéo, sachez que ça a été mis sur YouTube. Allez, je vous fais une petite conclusion avec une voix inquiétante et on en reparle après.
Ok.
Et après, ces jeux ne disparaissent pas quand on ferme leur boîte. Ils restent, ils s'accrochent. Les cartes d'Arkham continuent de cisailler vos rêves. Les sourires de Dead of Winter fissurent encore vos certitudes. La tour de Dread s'écroule sans cesse dans votre mémoire. Le regard d'Inhuman Condition vous perce encore les doigts. Non, le regard d'Inhuman Condition vous perce encore la peau. La cire froide de Ten Candles colle toujours à vos doigts, et la nuit de Nyctophobia veille encore sous vos paupières. La peur devient une matière, lourde, grasse, poisseuse, une matière qui s'infiltre sous vos ongles, qui colle à vos dents, qui macère dans vos silences. Une matière qu'on emporte avec soi, qu'on respire dans l'obscurité du couloir, qu'on retrouve au moment exact où on éteint la lumière. Alors, la prochaine fois que vous poserez une boîte sur la table, êtes-vous sûr de vouloir l'ouvrir ?
Merci Kurtz.
Ben avec plaisir. Il va être plaisant ton retour à la réalité, Caduce.
Oui, ça va. Moi, j'essaie de réfléchir quand même à ces histoires de jeux qui font peur et vraiment, j'arrive pas à me mettre en situation d'avoir ressenti vraiment la peur en tant que coureur, mais beaucoup plus facilement des jeux malaisants en fait.
Ouais, bien sûr.
Et qui effectivement m'accompagne après la fermeture de la boîte. Tu vois, j'ai un exemple, ça pourrait être négociateur prise d'otage.
Oui.
Que je trouve malaisant alors que j'adore Final Girl.
Oui.
Un autre jeu qui je crois je me suis même arrêtée avant la fin de la partie, c'était dans la gamme des 50 Clues, le Pendule de la Mort, et j'ai trouvé ça malaisant parce que il y a alors c'est une sorte de thriller horrifique. J'ai pas trouvé ça malaisant à cause de la peur que ça pouvait faire ressentir, mais parce que, donc sans spoiler, le jeu m'a mis dans une situation que je refusais d'assumer. Et ça m'a fait arrêter, pas par peur, mais plutôt par rapport au malaise d'incarner quelque chose, on va dire. Mais la peur, non.
Moi, j'ai une question. Moi, ça m'arrive souvent dans des jeux, tu sais, de ressentir un genre d'énorme tension au point que ça devient physique, quoi. Où vraiment, tu sais, j'ai le cœur qui bat, limite je tremble, quoi. Tu sais, tellement je suis pas bien, mais pas de peur, forcément, juste d'une grosse tension. Moi, par exemple, quand je suis en tournoi à Magic, il peut se passer des situations où je me dis putain, là, faut vraiment pas qu'il capte un truc et qu'il faut pas qu'il capte que en fait j'ai un terrain de merde en main et il faut que je bluffe à fond. Et du coup moi dans ma tête je suis en mode hyper tendu quoi, et je suis obligé de poser mes cartes sur la table, de mettre mes mains sur mes genoux pour pas qu'il voit que je tremble ou des trucs comme ça. Est-ce que vous avez déjà ressenti à ce point physiquement des trucs dans les jeux de société,
de la tension que tu vas somatiser avec de l'impatience en plus?
Ouais, ou typiquement même dans t'as cité Jenga, tu vois, dans les jeux comme ça, en manière de dextérité, t'es hyper tendu, t'es hyper crispé, quoi, parce que...
Oui, non, mais je pense que oui, en fait, des jeux où j'en sais rien...
Ou est-ce qu'il n'y a que moi qui ressens ça, peut-être?
Non, mais je pense... Allez, on va prendre un EuropaMine, où on joue à deux, ouais. Mais pas l'un contre l'autre, contre le système, où en fait, on doit deviner tous la même chose.
Oui.
Et tu sais, toi, t'as trouvé, mais c'est pas à ton tour de jouer.
Ah, ouais.
Ah, je suis tendu. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis tendu. Je suis hyper tendu. Vraiment, je suis tendu que si... Putain, s'il donne la réponse, c'est lui qui a gagné. Si, par contre, si ça va jusqu'au prochain tour, c'est bon pour moi, tu vois. Donc, tu ressens sur plein de jeux.
Presque de l'impatience,
ça, souvent,
hein, plus que, enfin, oui, c'est de l'impatience que tu vas ressentir comme de la tension.
Ouais. Alors, si on veut mettre une notion de peur, ce sera une notion de peur. J'ai peur de perdre. Je comprends.
Moi, je suis bloqué en fait sur ton dernier exemple de Perudo là, tu vois. Et je me dis, mais en fait, ce genre de sentiment-là, je le ressens dans plein de jeux, typiquement dans les jeux en temps réel, tu vois, ou des trucs comme ça, où là, je suis hyper tendu pendant genre 2 minutes comme ça, et je dois faire des trucs de fou. Mmh. Et je me dis, en fait, ça serait hyper simple de faire des jeux d'horreur en mélangeant ces trucs-là, tu vois, en utilisant ces mécaniques de tension, mais avec une thématique cohérente d'horreur. Mmh. Quoi. Mais du coup, juste Caducée, t'as pas répondu, toi. Toi, tu ressens pas ça
non.
Du tout.
Alors, pas à ce point. Je vais avoir l'impatience, je vais la ressentir. Par contre, je vais ressentir la tension, mais pas au point de la somatiser. Et je suis pas sûre de ressentir les choses de façon aussi intense comme tu les décris là.
Ok.
Bah, je sais pas. Je me pose la question. Est-ce qu'on peut en parler maintenant, si vous voulez? La dernière fois que j'ai joué à Alice is Missing, dans les 3 heures après, j'ai fini à l'hôpital. Donc, je sais. Est-ce que c'est lié ou pas?
Non, ça c'était Umbrife and Bright.
Je sais pas. Ah, ça doit être ça. Je sais pas. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une truc qui s'est condensé là, tu sais, de le vivre vraiment, etc. Je sais pas du tout. Mais je pense que oui, le ressentir des émotions vraiment dingues dans des situations particulières liées aux jeux de société, oui, bien sûr, des trucs très très forts. Hein.
Mais tu vois, ça pourrait être un indice que ce serait une forme d'horreur, parce que si Caducée le ressent pas, vu que t'as dit que Caducée, toi, tu ressentais pas trop l'horreur en général, même, tu sais, genre au cinéma.
Non.
Tu sais, il y a peut-être un lien à faire, tu vois.
Non, parce que je pense que je fais vraiment la distinction, si tu montres l'horreur, je la vois, je vois bien que c'est horrible. Mais est-ce que ça induit de la peur chez moi pour autant? Non. La peur dans le sens où on l'évoquait, la prise de conscience d'un danger. Tu vois, tu parlais des jeux en temps réel. Oui, t'as le stress en fait lié au timer, au timing, à l'enchaînement des situations, tu vois. Et ça, je le ressens. Mais est-ce que pour moi, je l'associe vraiment à de la peur, même si, ok, le timer et le temps réel, j'en ai bien conscience. Mais est-ce que je le ressens comme une menace, si tu veux?
Est-ce que tu penses que le fait que tu ressentes pas l'horreur dans le cinéma, etc., c'est lié à ton taf?
Ouais, je pense qu'il y a une grosse partie qui est liée à mon boulot, oui.
Ouais.
Oui, probablement. Et qui, avec un côté probablement très très cartésien de ma part, en fait, sur tout ça. Donc les émotions, si tu veux, en soi, du stress, de la tension, de l'impatience, ça je le comprends. Mais de là à le verbaliser en tant que peur, ça me semble compliqué, ouais. Et je vois pas trop comment un jeu pourrait m'amener à ressentir la peur ou la menace. Ou alors tu l'élargis à fond. Et dans ces cas-là, effectivement, l'exemple de ton Perudo est bon, mais tu peux l'élargir à tous les jeux.
Oui, bah oui. Et jeux vidéo, tu joues peut-être pas trop, je sais pas.
Ouais, pas trop.
Des jeux d'horreur.
Non, pas trop. Donc je pourrais pas te faire le point de comparaison, mais après sur les situations de surprise, de bruit qui arrive d'un coup, d'images qui arrivent d'un coup, c'est oui, je vais sursauter, tu vois, mais
c'est du réflexe, c'est
une réaction, voilà, c'est une réflexe. Pour autant, est-ce que ça induit de la peur? Pas vraiment.
C'est la différence, ça c'est le réflexe, c'est la différence dans un film entre la bonne et la mauvaise peur. En fait, tu vois ce que je veux dire? Je suis retombé, pour l'épisode, j'ai recherché un peu une citation que j'avais entendue, mais j'en étais pas sûr. C'est Karim Debbaque, dans un de ses épisodes de Cross, il dit « La bonne peur doit être viscérale, pas épidermique ». Dans le sens où la bonne peur au cinéma, c'est le truc qui doit être installé tout du long. Si c'est juste un jumpscare,
oui, c'est ça.
Toutes les 5 minutes. C'est ça. Oui, t'as peur. Évidemment, ça te saute à la gueule. T'as peur. Mais est-ce que c'est de la peur de qualité? Non. La vraie peur, mais au cinéma, ou en jeu, ou en livre, etc., ça doit être une ambiance.
Ça, c'est celle des non-dits, c'est la peur psychologique, mais qui va probablement appartenir à chacun.
C'est à quel moment l'alien, il va surgir du couloir, et il ne surgit pas du couloir, il surgit de derrière. Ça, c'est le truc, vraiment, l'ambiance, elle est installée, elle est posée, ça doit pas être juste un truc qui se fait toutes les 5 minutes comme ça, voilà.
Et on en revient un peu à la mise en scène, hein, pour ça. Je pense que difficilement avoir des jeux qui vont faire peur si t'as pas en plus une mise en scène qui va induire du visuel, de l'audio, même des jumpscares, comme tu dis. Ça peut participer aussi à tout ça. Mais
moi, je pense à un exemple, si tu veux, pour les jumpscares. Il y avait un jeu, j'ai oublié le nom. Vous me le redirez dans les commentaires, c'est un truc basé, tu sais, sur ces légendes japonaises de meufs avec des cheveux longs, là, dans les toilettes publiques qui vous attaquent, là.
Ah oui,
c'est le genre de fantôme, là, voilà. Kurt, il doit adorer, lui, qui aime les
fantômes. Ah, là, je suis au maximum du kiff, là. Ouais.
Et en gros, c'est un genre de stop ou encore, et l'idée, c'est que à chaque fois que tu vas continuer ton stop ou encore, tu vas fermer les yeux, et quand tu vas les ouvrir, en fait, les autres joueurs vont vérifier la condition du stop ou encore. Et si tu l'as réussi, bah, il se passe rien. Donc, tu ouvres les yeux et tout va bien. Tu peux continuer à avancer dans les couloirs ou je sais pas quoi. Et si tu te plantes, en fait, ils vont prendre la boîte. Et dans le fond de la boîte, il y a le fantôme en gros, gros plan comme ça. Et ils te la mettent devant ta gueule comme ça. Et comme ça, quand tu ouvres les yeux, bah, bam, tu vois le fantôme en gros plan parce qu'il t'a attrapé.
Oh, c'est intelligemment fait, c'est bien. Ouais,
ouais, c'est bien amené, oui. C'est très bien amené.
Voilà, donc là, c'est un jumpscare en termes de mise en scène, tu vois.
Oui, ouais.
Mais sinon, Atmosphère est un exemple aussi. Hein, mais...
Oui, oui, parce qu'il surgit à un moment sur ton écran en criant un petit peu, si je me souviens bien.
Ouais, ouais, et puis même, t'as des cartes qui font que les joueurs font des jumpscares. Donc, tu sais, ça dit genre, quand il y a tel timer sur la vidéo, tu dois faire peur aux autres, tu dois faire sursauter les autres. Donc, évidemment, tu hurles à la gueule du mec, tu vois.
Est-ce qu'on passerait pas à toi, Caducée ?
Ouais, alors moi, je vais revenir à des choses beaucoup plus terre à terre. Vous l'avez compris. Je vais ressortir ma carte de la joueuse un peu trop cartésienne, probablement. Et je vais vous parler de la peur au sens large, plutôt dans le sens crainte et appréhension dans notre pratique du jeu de société. Donc, j'ai décidé d'étendre la notion de peur en vous parlant non pas de la peur qu'on peut chercher à ressentir lorsqu'on joue, mais plutôt de celle qu'on va essayer d'éviter. Plutôt que de peur, d'ailleurs, on va donc élargir la sémantique en utilisant les termes d'appréhension, d'anxiété ou de crainte. Pour la majorité d'entre nous, il peut être difficile de se rendre compte qu'un loisir qui nous apporte du plaisir soit une source d'anxiété. Mais nous, joueuses et joueurs expérimentés, avons peut-être franchi certains paliers d'XP, poussant le curseur de nos caractéristiques mentales à un stade tel qu'on ne se souvient plus qu'un jour, nous étions aussi des néophytes. Toutefois, si on essaye de faire l'exercice de lister les différentes sources d'angoisse dans notre monde ludique, il est possible qu'on réussisse à se sentir toutes et tous plus ou moins concernés. Et c'est ce que je vous propose ici dans ma chronique. Je vais vous énoncer un listing interminable, mais probablement pas exhaustif, et j'ai tenté d'organiser tout ça dans 3 grandes catégories. Et vous me direz ensuite, messieurs, s'il y a des choses auxquelles vous pensez que j'aurais pu oublier avant de conclure. Les 3 catégories, ce sont la peur de l'inconnu et de la nouveauté, puis les peurs liées à l'anxiété sociale de performance, et enfin les peurs circonstancielles. C'est bon, l'ambiance est retombée là, vous êtes revenu à la réalité. Alors surtout, il faudra pas rechercher de gradation dans la sévérité des items que je vais vous présenter, parce qu'au final, l'appréhension, elle va appartenir à celui qui la ressent. Donc tout d'abord, on va évoquer les situations qui pourraient entrer dans la catégorie de la peur de l'inconnu et de la nouveauté. Entrer pour la première fois dans une boutique spécialisée. Que la devanture soit accueillante ou non, la multitude de jeux mis en exposition, le trop-plein de références abstraites peut vraiment impressionner. Sans parler de ces regards qui se tournent vers vous à l'instant où vous franchissez la porte. C'est sûr, vous venez de déranger Michael, Norman et Jason occupés sur la petite table près de l'arrière-boutique. Découvrir de façon brutale qu'il y a d'autres jeux que le Uno, le Cluedo, le Monopoly et le Scrabble. À ce niveau de connaissance, si vous répondez que oui, bien sûr, vous aimez jouer, mais que vous vous retrouvez installé à une table de Tricerion, probable que la transition soit un poil agressive. Même Azul et Splendor peuvent être intimidants pour qui découvre. Et c'est surtout le moment, lors des premières découvertes, où plus le jeu est annoncé comme simple, plus la peur est grande. Toujours dans la catégorie de la peur de l'inconnu, mais qui peut concerner les plus aguerris. Jouer et rejouer toujours au même jeu a un côté rassurant. Vous maîtrisez les règles, vous connaissez toutes les arcanes, les pièges, les réactions de vos partenaires. Vous recherchez ce contrôle. Mais quand il faut élargir ou découvrir un autre type de jeu, vous vous retranchez derrière le fait que rien ne pourra surpasser votre chouchou et que vous pouvez vous contenter de regarder. Et la peur de l'inconnu, elle peut aussi se manifester dans certains types de jeux. En particulier ceux qui vont vous demander une adaptation permanente pour s'en sortir ou une planification difficile. Un peu comme dans Nemesis ou Cthulhu Death Medaille. Les jeux abstraits auront alors peut-être un côté rassurant, sans surprise cachée. Ça, c'était la première catégorie. Maintenant, on change de catégorie avec les peurs liées à l'anxiété sociale de performance qui va être probablement nourrie par une société compétitive et une crainte permanente de la comparaison. La plus évidente, c'est la peur de perdre. Alors oui, on est là pour s'amuser, mais si compétition il y a, on aimerait bien aussi en sortir vainqueur. En fait, il faut en sortir vainqueur pour ne pas être stigmatisé comme perdant ou non performant, et surtout ne pas se retrouver à avoir envie de retourner la table si la partie ne se profile pas à votre avantage. Il y a également la peur de mal faire. Il n'y a pas d'exigence de victoire ici, mais la crainte d'avoir mal compris les règles, de se trouver en décalage par rapport à des personnes plus expérimentées, d'être pris pour un boulet, d'être jugé. Et par extension, ça nous amène à la peur d'être ridicule. Difficile de se laisser aller, d'assumer d'être observé. Attention, je parle pas de celles et ceux qui n'aiment pas les jeux d'ambiance avec des mimes, mais bien des émotions qui découlent de ces situations lorsque la joueuse a vraiment envie d'y prendre part, mais ressent un blocage qui l'empêche de profiter de la partie. Et enfin, dernière catégorie, les peurs circonstancielles. Ça va être une catégorie un petit peu fourre-tout. Aller dans un festival de jeux, c'est pouvoir être amené à jouer avec des personnes inconnues, parfois faire l'effort d'aller vers les autres ou même accepter que les autres viennent vers soi. Il y a également l'anxiété de la discussion. On est là pour jouer. Est-ce que d'une certaine manière, se retrouver autour d'un plateau de jeu ne permet pas d'éviter les discussions ou d'éluder la crainte de n'avoir rien à se dire si l'on devait se retrouver ensemble d'une manière plus conventionnelle? La peur de jouer en équipe, qui peut faire écho à l'anxiété de performance, ne pas être celui ou celle qui va faire perdre l'équipe ou au contraire, ne pas vouloir dépendre de quelqu'un d'autre que soi pour maîtriser son jeu. On a aussi le fameux syndrome de l'imposteur qui peut se manifester lors de discussions, de prises de position ou lorsqu'un joueur alpha prédomine. On peut penser aussi à la peur du jeu en ligne, se lancer seul contre des adversaires non connus et qui ne font pas partie du cercle amical maîtrisé. C'est se risquer à des échanges et des réactions non désirées qu'on peut avoir du mal à gérer. La peur d'abîmer son matériel, peu importe la raison, quand le moindre verre sur la table devient source d'angoisse. La peur d'expliquer les règles. Parce que si vous tenez ce rôle, c'est bien que vous connaissez cette règle par cœur, non? Et qu'en plus, vous maîtrisez cet art en sachant garder votre audience en haleine. Pas d'erreur possible. On pourrait vous le reprocher si vos camarades passent un mauvais moment autour de la table. La peur d'admettre que là, tout de suite, vous êtes probablement en surmenage mental et que l'idée de vous mettre devant une partie de barrage vous donne envie de vous rouler en boule sous un plaid et qu'il serait mieux de sortir just one. Et enfin, et c'est peut-être l'item le plus fourre-tout, la thématique d'un jeu, tout parti, qui peut également être source d'angoisse. Alors avant de conclure, je vais vous faire travailler un petit peu. Est-ce que vous avez d'autres exemples en tête ou est-ce que vous pensez à d'autres situations qui pourraient être source d'anxiété que je n'aurais pas citées?
T'as pas beaucoup développé à la fin là sur la thématique. Donc je sais pas si tu inclus par exemple, moi ce que je constate c'est qu'il y a beaucoup de peur un peu morale de la part des gens. Tu l'as dit tout à l'heure, t'as cité un exemple où tu disais « Ah ça me met mal à l'aise d'incarner un truc dans tel jeu, t'as pas voulu spoiler ce que c'était, mais je constate que beaucoup de gens ont cette peur-là de se dire « Ah non, moi j'ai pas envie de jouer à Secret Hitler parce que je pourrais potentiellement être un nazi, quoi, par exemple. »
Tout à fait.
Je sais pas si tu l'inclus.
Ah oui, je pense que je l'inclus de façon extrêmement large. Je pense que c'est vraiment la peur de la thématique ou du sujet qui va être abordé dans le jeu,
ouais, voilà.
Comme on peut avoir même dans plein de types de jeux, avec des sujets qui vont être vraiment sensibles différemment en fonction des joueuses et des joueurs. Et d'où cette, on va dire, on essaye de faire en sorte qu'il y ait cette fameuse carte X qui soit un peu démocratisée pour que chacun puisse juste faire comprendre qu'il y a des sujets qui sont sensibles dans lesquels tu n'as pas envie de te lancer sans forcément avoir à le justifier. Et là, effectivement, le thème est hyper fourre-tout parce que ça peut être la thématique du jeu, comme tu cites Secret Hitler, mais ça peut être une carte dans un jeu en particulier ou juste une image dans un jeu en particulier. Et donc, tout ou partie du jeu peut également être une source d'angoisse.
À une époque, j'essayais de faire jouer ma famille, j'ai abandonné hein, depuis. J'ai monté le crescendo sur les difficultés de jeu. Et un jour, j'ai fait, bon, c'est bon, on a atteint tel niveau, on est pas mal, la prochaine fois, je vous fais jouer à Secret Hitler. J'ai eu ah non, je veux pas jouer à ça. Je suis persuadé que si j'avais dit, la prochaine fois, je vous fais jouer à Secret Voldemort, ça passait crème. La personne n'a même pas cherché à vouloir savoir de quoi parlait le jeu. Il y avait Hitler dedans, c'était mort, quoi. C'est, voilà. C'était un exemple pour revenir sur ce que tu disais, effectivement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, alors, est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'angoisse de se dire, à la soirée jeu, il y aura machin ou machine, je l'aime pas.
Grave, ouais, ça, putain.
Ouais. Bah voilà.
Oui. Oui, je pense que réellement ça peut rentrer dedans pour
ouais,
quelque
ouais,
raison
sûr.
Que ce soit d'ailleurs. Est-ce que c'est juste par inimitié vis-à-vis de cette personne dans ta vie personnelle? Est-ce que c'est à cause de son comportement autour d'une table de jeu? En fait, je pense que tu peux l'étendre à énormément de situations. Si vous voulez, je vais conclure pour vous dire à quoi amène tout ce discours, ce qu'il faut retenir un petit peu de tout ça, c'est parce que on entend régulièrement parler de thérapie par le jeu, chez l'enfant, chez l'adulte, pour améliorer la communication, les relations sociales, favoriser l'expression des émotions, voire même développer des compétences motrices ou cognitives. Mais si le jeu est aussi une source d'anxiété, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, à moins de jouer exclusivement solo, ce qui pour autant ne nous empêche pas de faire un peu d'introspection, hein, on va essayer de garder en mémoire que ce qui fait le plaisir des uns peut être source d'angoisse pour d'autres, à différents degrés certes, hein, mais l'important va résider dans notre capacité à toutes et tous à rester à l'écoute, à nous adapter et à faire en sorte de tenir compte des besoins, des craintes, des attentes de nos partenaires de jeu, d'avoir connaissance de nos freins, de ceux des autres, peut-être permettre de les verbaliser, de trouver des compromis, des solutions qui pourront rendre notre loisir plus inclusif. Savoir proposer des jeux adaptés, essayer de s'exposer peut-être graduellement à des sources d'angoisse pour atténuer ces niveaux d'anxiété, essayer de verbaliser vos craintes si vous êtes concerné ou de les comprendre si vous êtes face à quelqu'un qui semble mal à l'aise. L'idéal, bien sûr, c'est de s'entourer de camarades ludiquement compatibles, ce que je vous souhaite à toutes et tous. Voilà. Je sais pas si vous avez des choses à dire à tout ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus sérieux que...
Tu disais, et encore, la solution, ce serait de jouer tout seul, et encore, je suis même pas sûr que tu ne puisses pas ressentir, désolé pour la double négation, mais j'adore ça, que tu puisses pas ne pas ressentir d'angoisse ou quoi,
ouais.
Est-ce que j'ai bien compris les règles, est-ce que si, est-ce que ça, je suis sûr que même tout seul face à un jeu, tu pourrais presque...
C'est possible, même si quand tu es le seul ou la seule concernée, tu vas faire ce qu'il faut, enfin naturellement, j'imagine que tu fais ce qu'il faut pour éviter de te mettre dans une situation
qui va...
Oui,
si tu te dis, évidemment, si tu te dis je vais jouer tout seul, t'es déjà dans la démarche de te dire je vais jouer. Je pense que le plus, t'as fait le premier pas ou t'as même fait le plus grand pas. Et je voulais vous partager un exemple un exemple très très amusant qui va permettre de rebondir sur ce que tu disais plus tôt dans la peur de plein de choses. Avec un camarade, on était sur un vide-grenier un dimanche matin tôt et au loin, nous voyons une boîte de pandémie. De base, le premier, voilà, pandémie. On s'approche, mon camarade demande « Vous le vendez combien ?» Et le vendeur a dit « Bah, je veux bien vous le vendre, mais pour autant, il faudrait que vous puissiez comprendre les règles. »
Ah oui. Ouais. Ça, c'est sacrément dur. Hein.
Voilà. Alors, on ne juge pas. On ne juge pas. Pandémie, si on devait faire une échelle qui part de pile ou face jusqu'à, je sais pas quoi, très haut, il est bas. Mais voilà, je pense que cette personne n'a pas été bien accompagnée.
Moi, je dis surtout waouh, parce que la manière dont il le dit à ton pote.
Il y a un truc qui n'allait pas.
Oui, moi, c'est plus là-dessus que je réagis aussi. C'est la manière de dire les choses. Parce que là, tu mets directement un frein aux personnes qui viennent vers toi en disant « Mais attendez, vous allez jamais être comprendre de dire les règles. »
Je pense qu'il voulait pas non plus que la personne qui l'achète, elle se retrouve face à un truc habitable, etc. Un jeu injouable. Bon, c'est juste qu'il l'a pas compris. Pandémie est très simple, il y a trois règles. Voilà, mais bon, c'est pas...
Eh oui, mais c'est ce que je dis dans ma chronique. Même Azul, même Splendor, pour des personnes qui découvrent le jeu de société, ça peut être une barrière. Et justement, en présentant c'est, on va dire, ce que nous on va considérer comme des jeux adaptés pour découvrir le jeu de société moderne, si on les présente comme très simples, ça peut déjà être une sorte de frein qu'on va imposer, parce que si la personne a l'impression de pas tout comprendre dès le départ, ça peut le décourager et peut-être qu'en fait il va pas continuer dans sa découverte.
Ouais. Mais c'est vrai que je me mets à la place de Jean-Michel Lambda à qui on a fait jouer un petit jeu le samedi précédent et qui se dit ah c'était chouette quand même, allez je vais aller me l'acheter, et qui rentre dans une boutique pour la première fois de sa vie, alors pas la grande boutique, le petit truc un peu obscur, etc., la description que t'en faisais, il y a de quoi ressortir tout de suite hein, quand on n'est pas habitué
Non, c'est sûr, je pense que selon les gens sur qui tu tombes en face de toi, ça a de quoi te refroidir hein.
CF, le dossier qu'on avait fait sur découvrir ou faire découvrir le jeu de société, bien sûr.
Ouais. Tout à fait.
Mais le coup des gens en brocante qui te revendent des jeux très, que nous, on considérerait comme simples et qu'ils disent on n'a rien compris, ça, c'est vraiment un classique. Hein. Moi, le plus simple que j'ai vu, c'était un Skip-Bo. Pour ceux qui connaissent.
Oui.
Pareil, on n'a pas compris la règle.
Oui, tu fais des séries de cartes sur un 7, tu dois poser un 8.
Mais moi, je suis pas étonné. Que même un jeu comme Carcassonne, je dis toujours, c'est hyper compliqué pour des débutants. Et en fait, c'est normal parce que quand tu connais rien, c'est normal, quoi, tu vois.
Ça peut y avoir une appréhension, on est d'accord.
Ouais. À part ça, moi, je veux bien réagir du coup sur la chronique de Caduce.
Vas-y, vas-y.
J'ai pas mal de trucs à dire. Premier truc, genre. Putain, merci, enfin, OMG. Je pense que je vais reprendre ta conclusion, tu vois, et je vais la foutre dans la gueule de plein de gens, parce que, en fait, ce que tu dis, c'est hyper pertinent pour dire qu'effectivement, il y a une sorte de dictature du fun, tu sais, on dit ça pour le jeu de société, de dire, ah oui, les jeux, c'est cool, c'est fun, c'est amusant, nanana, genre, tu sais, c'est la seule émotion que tu peux ressentir, tu vois.
Il y a jeu dans le titre, hein, t'es censé t'amuser, je suis désolé. Hein.
Voilà, le jeu, c'est amusant, bon, voilà, c'est une grande connerie de dire ça, et du coup, effectivement, tu vois, ta chronique, elle rappelle quand même qu'en fait... Il y a plein de gens, déjà, ils aiment pas les jeux. Ça va plus les angoisser qu'autre chose. Tu sais, je sais pas, le côté compétitif ou des trucs comme ça, ça les angoisse et tout. Nanana.
Bien sûr.
Et du coup, effectivement, moi, ça me gonfle. Et ça, pareil, on peut renvoyer sur le dossier sur les serious games. Mais moi, je l'avais déjà dit, ça m'énerve de voir qu'il y a plein de boîtes qui commandent des serious games. Alors, c'est souvent des jeux vidéo, pour le coup. Juste parce que c'est cool, c'est un jeu, et du coup hein, ce sera sympa, tu vois, ou tu sais, des boîtes qui vont faire du team building dans des putains d'escape rooms, ou des trucs comme ça, alors qu'en fait, ça se trouve, tu vois, t'en as un dans le groupe, il va rien faire tout le long de l'escape, parce qu'il aime pas ça, il en a rien à foutre, tu vois.
Et tu te retrouves embarqué contre ton gré dans des choses, en fait, qui ne te correspondent pas du tout.
C'est horrible. D'ailleurs, c'est drôle, là, putain, ça me fait penser, vous pouvez aller regarder la web-série Digital Circus. Attends, c'est pas ça le titre complet, mais en gros, c'est un truc comme ça. C'est une série sur YouTube, et en fait, c'est super drôle parce que c'est un personnage qui se réveille dans un jeu vidéo et qui se rend compte qu'en fait, il est prisonnier un peu dedans, quoi. Tu vois, et du coup, c'est un truc qui est censé être une comédie horrifique, en fait. Déjà, mélange des genres assez cool. Et du coup, effectivement, tu te dis, c'est exactement ça, quoi. T'es embarqué, t'es forcé à jouer, à être heureux, etc. Alors qu'en fait, juste, t'es prisonnier, tu vois. C'est trop angoissant, en fait, les team building et les services.
De toute façon, quand t'auras retrouvé le titre, tu nous le mettras dans le billet.
C'est The Amazing Digital Circus.
Voilà, c'est ça. J'ai juste oublié The Amazing. Et ouais, donc après, pour toutes les autres sources d'angoisse que tu as citées, moi, je les ai ressenties sûrement à un moment donné, mais aujourd'hui, comme tu as dit, je pense qu'en fait, là, c'est un biais du survivant ou un biais de cadrage, mais évidemment, tous les gens, là, même qui seront sur le Discord et qui réagiront, je pense qu'on est tous des joueurs un peu vétérans.
Oui.
Et donc, du coup, on ressent plus trop ces angoisses-là. Mais je me souviens effectivement que, genre, typiquement, le jeu de rôle, la première partie de jeu de rôle, c'était hyper angoissant de voir les autres faire du roleplay soudainement. J'étais en mode, quoi, c'est comme ça que ça marche, votre truc? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je vais devoir faire ça, moi aussi, parler devant tout le monde et tout. Tu vois. Et,
non, mais c'est le cas dans des tas de situations de la vie. Hein. Nous, on en parle du jeu de société.
Ouais.
Mais la première fois que tu rentres dans je sais pas quoi, en fait, un domaine que tu connais pas, que tu maîtrises pas, ou que tu rentres dans une boutique ou dans un cercle de gens ou n'importe quoi, c'est hyper angoissant. Hein. Je vais pas
ouais,
vous mentir.
Ouais, mais là, comme c'est censé être fun, ah, si ouais. tu veux, voilà.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais je vais pas vous mentir, mais avant mon ludopie, j'ai fait une crise de panique. Donc voilà, ça me paraît normal. Ouais.
Mais comme tu dis, je pense qu'en tant que joueur aguerri, il faut pas oublier que tu vois, toi tu dis que t'as pu ressentir ces choses-là à un moment ou à un autre, voilà, d'une manière plus ou moins intense, mais de ne pas oublier que
quand on est en présence de moldus, il faut pas oublier que
mais pas que.
Ok, non mais je
pas ouais, que. Ouais. Moi, je reste persuadée qu'il y a des situations qui peuvent être des sources d'anxiété ou d'angoisse pour des joueurs plus aguerris et qu'il faut peut-être déjà, en prendre conscience, parce que peut-être que toi-même, tu n'en as pas forcément conscience et que tu as l'impression des fois d'être mal à l'aise dans certaines situations de jeu sans forcément faire justement cette démarche d'introspection pour savoir ce qui se passe et pourquoi ça te plaît pas et pourquoi en fait ce jeu ne te plaît pas, plutôt que de dire « Ah ben en fait, j'aime pas ce jeu ben, ». Peut-être qu'en fait, tu l'aimes pas parce que y a ce côté compétitif qui te va pas, parce qu'en fait, tu te rends compte que tu vas jamais gagner, parce qu'en fait, c'est le jeu en équipe qui te convient pas, etc. Il n'y a pas que les débutants, entre guillemets, qui vont être concernés. Et je pense que d'en prendre conscience
ouais,
et de savoir que ça peut concerner tes camarades de jeu, avec qui t'es quand même censé passer normalement un bon moment, ça peut aider à faire évoluer les choses, à favoriser en tout cas la verbalisation de ces choses-là et à faire en sorte que tout le monde passe un bon moment.
Après, moi, ce que je veux préciser aussi, et ce que je trouve très intéressant, c'est que le jeu de société, du coup, c'est un art qui se fait dans la vraie vie, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ce truc d'autant plus angoissant, qui est que, bah voilà, t'es souvent en multijoueur avec des gens qui sont genre face à toi et tout, donc t'es vraiment dans une sorte d'interaction sociale, mais pas vraiment sociale, parce qu'on est dans le cercle magique du jeu, donc on est dans une autre étiquette. J'entends par étiquette, tu vois, les manières correctes de se comporter en société, quoi.
Mm-hmm.
Et donc, c'est des codes à respecter, nanana. Et du coup, tu peux avoir plein de trucs angoissants là-dessus. Et encore une fois, je pense qu'il y a plein de jeux qui pourraient exploiter à fond ce truc-là pour vraiment te mettre mal à l'aise ou te faire peur ou des trucs comme ça. Et je vais peut-être citer 2-3 exemples. Moi, je pense à des jeux comme Privacy ou... Privacy, je ne sais pas si vous connaissez.
Oui.
Donc vous savez, on vous pose une question et tout le monde répond un peu anonymement. Et c'est toujours des questions hyper gênantes, tu vois, genre...
Normalement, c'est 100% anonyme. Mais...
C'est 100% anonyme. Mais la question est hyper gênante, tu vois. Et c'est toujours une réponse par oui ou par non. Et ensuite, tu dois deviner combien de personnes ont répondu oui. Tu vois. Mais du coup, tu sais, t'as quand même un petit malaise qui se met autour de la table, et puis tu sais, tu dis, ah, mais qui c'est qui a répondu oui et tout, tu vois. Je trouve que.
Non, mais c'est absolument, mais je sais que par exemple, un exemple qui m'est arrivé,
incroyable.
Sur une partie de Privacy, on était, je sais pas, 5, 6, 7, 8 autour de la table, peu importe. Moi, je sais que j'ai assez peu de tabous, donc je vais répondre à toutes les questions, je m'en fous. Et de toute façon, les gens s'attendent à ce que je réponde oui à tout, donc de toute façon, j'ai pas de problème. Mais je sais qu'autour de la table, il y avait une jeune fille, dès que ça parlait le sexe, elle dit, je veux pas répondre. Et ben, tu sais quoi? Ne réponds pas, ne participe pas à cette manche, ça ne nous pose aucun problème.
Oui, voilà, mais c'est juste un exemple que je donne.
Ouais, ouais, bien sûr.
Qui arrive à faire ça. Et alors, t'imagines, qu'est-ce qu'on pourrait faire si vraiment on appliquait des trucs immoraux dedans et tout, ça serait incroyable. Moi, je pense aussi à un autre truc, c'est que du coup, si on prend, tu vois, le fait qu'on est dans la vraie vie, t'as aussi, tu sais, le truc physique. Et moi, je me dis, bah, tu sais, genre, Lightning Reaction, vous avez déjà joué à ça ?
Non.
Vous savez, c'est un jeu genre électronique où tu tiens une petite poignée,
ah oui,
t'as
oui.
une petite musique qui se joue, et quand la musique elle s'arrête, faut appuyer sur un bouton, et celui qui appuie le dernier sur le bouton, il se prend une décharge électrique dans la main, quoi.
Ah, sympa.
Et je sais pas si on peut le compter dans l'angoisse ou un truc comme ça, mais n'est-ce pas au fond, tu sais, un des jeux les plus effrayants, parce que t'as vraiment un stress de malade de dire, putain, si je suis le dernier, je me prends la décharge électrique, tu vois.
Mm.
Et tu vois, c'est aussi ce truc de, ah, ça joue sur le fait qu'on est dans la vraie vie et que donc, du coup, tu peux avoir une douleur physique,
ouais.
tu vois. Et voilà, moi, ça me fait, tout ça, ça m'évoque un peu tout ça, mais ça, j'ai dit les trucs hein, peut-être un peu dans le désordre, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi.
Ok. Cœur, ça a des choses à rajouter?
Non, là, comme ça, non, je pense qu'on va battre le record du dossier le plus court, à mon avis.
C'est parce qu'on est trois.
Bon, en tout cas, moi, je vais faire un appel aux commentaires. Pour une fois, c'est moi qui vais le faire. Parce que, voilà, je pense que je n'ai pas été non plus complètement exhaustive dans mon listing, qui était déjà suffisamment long comme ça, je vous l'accorde. Mais il faut pas hésiter à venir partager, en fait, vos expériences par rapport à ça, qu'elles soient d'ailleurs... personnel ou des situations que vous avez pu vivre face à d'autres joueuses ou joueurs parce que je pense que c'est justement en verbalisant ces situations-là et même si c'est juste un listing, ça permettra de se rendre compte de petites choses auxquelles on pourrait ne pas penser et peut-être en tenir compte pour la suite de notre vie de joueuse et joueur en société.
Très bien. De même, hein, si vous avez, par rapport à ce que moi j'ai dit, des exemples de jeux qui vous ont fait peur ou des cas particuliers, etc., n'hésitez pas à partager. C'est toujours intéressant de savoir l'autre côté du micro ce qui se passe.
Moi, je pense que ce qui angoisse les éditeurs, c'est de faire des jeux angoissants, justement. Mais justement, tu vois, moi j'ai trop envie de reprendre ces concepts-là et d'en faire des petits protos, tu vois, des petits jeux un peu expérimentaux, mais qui cherchent justement... à t'angoisser, à te mettre mal à l'aise ou des trucs comme ça, tu vois.
Tu vois, moi, je pense qu'il y a tellement de choses qui sortent en ce moment qu'à un moment, ils vont devoir essayer de sortir du lot et de proposer des expériences effectivement différentes pour faire parler d'eux aussi. Donc, peut-être que c'est à cause de cette multitude et de ce trop-plein de choses un petit peu banales qu'à un moment, on va réussir à pousser pousser les limites.
Les limites, ouais. Moi, je sais pas. J'ai
les bornes envie, de la d'avoir, création.
J'ai envie d'avoir cet espoir, mais en même temps.
Mais oui.
En même temps, je suis un peu blasé, tu vois. Je me dis, moi, je pense qu'ils sont très cyniques et qu'ils vont rester dedans, mais c'est peut-être pas forcément exactement comme ça que ça va se faire. Peut-être que ça va être plus des indés. Moi, je vois plus des indés qui vont plus repousser dans leur coin les limites, pendant que tu vois le mainstream va rester dans ces jeux de merde, tu vois. Et je suis pas sûr que c'est vraiment la multitude qui procure ça, parce que justement je trouve que les jeux étaient beaucoup plus innovants quand ils étaient peu, finalement, parce qu'ils juste ils étaient pas dans une recherche de profit. Je pense que c'est plus, tu sais, le contexte, et c'est pour ça que les indés chercheront moins le profit peut-être et plus un truc artistique. Voilà, là on part sur une autre conversation, donc je vais pas épiloguer plus que ça.
Oui, là ça peut partir loin, effectivement.
Mais tiens, ça me fait penser à un truc, du coup, qu'on parle d'indé, ça me fait penser, tu sais, à Ma Belle Hollande.
Oui.
Je pense à un jeu qu'elle a fait qui s'appelle Endurance. Mmh. Et c'est intéressant parce que c'est une espèce de jeu documentaire sur des gens qui avaient fait une expédition, l'expédition Endurance, du coup, en Antarctique. Et il y a un côté un peu horrifique dans le sens où, justement, tu dis, waouh, putain, ça, c'est la vraie vie. Et genre, ils se sont retrouvés paumés en Antarctique comme ça, échoués. Et moi, je vais devoir gérer leur survie, etc. Et genre, il n'y a pas de condition de victoire ni de défaite. Tu vois, c'est juste à toi de voir ce que ça signifie d'avoir deux morts ou trois morts ou quatre morts. Tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, tu vois, tu parlais de trucs terre à terre, tu vois. Est-ce que, tu vois, ça peut être angoissant le fait que ça soit un espèce de jeu documentaire, tu vois, parce que c'est dans la vraie vie.
Ouais, ça, je pense que par contre, oui, il y a de quoi puiser là-dedans. Des jeux qui auraient des bases réelles à visée documentaire avec cette ouverture sur la possibilité de ressentir plus ou moins de choses liées à ces situations. Oui, ça, par contre, ça peut effectivement être angoissant. Et tu vois, c'est peut-être même ce que je ressens, moi, un peu, d'ailleurs, quand je parlais de négociateurs prise d'otage.
Ouais. Alors que moi, ça marche pas du tout sur moi, ça, tu vois.
Et ouais, tu vois, moi, j'ai vraiment ce côté du sacrifice de tes otages qui me gêne énormément et qui rend le jeu beaucoup plus réel. Final Girl, qui au final reprend un peu le même système, mais dans une atmosphère qui est complètement fictive et qui s'inspire de films d'horreur célèbres avec des séries célèbres, et qui va rendre les choses beaucoup plus rigolotes parce que clairement pas réelles, alors que des preneurs d'otages
pas réel et pas réaliste
dans la vraie vie. Oui.
Justement, tu vois, négociateur prise d'otage, moi je l'ai vu comme pas réaliste parce que j'ai l'impression que c'est la prise d'otage telle qu'on la voit dans des films, tu vois. Et du coup, ça me semblait trop
romancé.
Trop romancé. Donc j'étais en mode, moi tu vois, j'ai été beaucoup plus choqué par la BD de Guy Delisle, je crois que ça se prononce comme ça, son nom de famille, qui s'appelle Otage, peut-être, un truc comme ça, où ça raconte un mec qui a été pris en otage, quoi.
D'accord.
C'est S'enfuir, voilà, j'ai trouvé S'enfuir, le titre de la BD. Et vraiment, c'est juste, tu vois, la vie d'un mec qui a été, qui a été kidnappé, quoi, pris en otage pendant, je sais plus, 4 ou 5 mois, tu vois, et puis... Voilà, c'est ça la BD, quoi. Et putain, là, ouais, tu vois, là, ça raconte un truc, c'est documentaire, c'est la vraie vie du gars et tout. Et tu te dis, ça fait quoi, tu vois, d'être un otage.
Après, il y a ce jeu qui s'appelle Freedom, les chemins de la liberté. Je sais qu'il y a certaines personnes qui le ressentent vraiment parce que c'est ça boîte des petits cubes. C'est censé être des esclaves que tu fais s'enfuir, etc. Je sais que moi, quand j'y ai joué, j'ai rien ressenti du tout.
Ouais, moi non plus.
Non, mais je peux comprendre le fait que si tu te dis, quand même, le cube que je vais déplacer à tel endroit pour se faire choper, c'est censé être des êtres humains. Je peux comprendre le. Ça m'a fait penser quand tu parlais du jeu sur l'expédition polaire. Je me suis dit, là, on est un peu dans le même cas. C'est un cas réel. Ça reprend des faits historiques, etc. Des esclaves qui passaient dans les. Comment ça s'appelait ? C'était le chemin de fer, qui pour s'enfuir, etc. Donc voilà.
Mais dans Endurance, tu vois, j'ai beaucoup plus ressenti ça parce que juste chaque personnage a un nom.
Ouais, alors que là, c'est un petit. Juste alors ça, en fait. C'est un petit cube bleu, effectivement.
Ils ont des noms dans le livret de règles. On m'explique, lui en fait, tu vois, c'était le photographe du groupe. Donc c'est pour ça qu'il a telle capacité spéciale, etc. Tu vois. Donc c'est ça. Il faut leur donner de la personnalité en fait. Sinon,
lui c'est le cuistot. C'est pour ça qu'il s'est cuisiné ses collègues, tout ça. Enfin bon, très sympa. Ouais.
Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, après Endurance n'est pas un bon jeu malheureusement, mais c'est pour dire que l'idée. L'idée
de l'expérience est là, en tout cas.
Ouais, c'est ça.
Ok. Est-ce qu'il serait pas temps de passer au fameux code de réduction ? Au fameux, oui, parce que depuis cette saison 16, ce n'est plus une petite énigme qu'on vous propose, mais un code de réduction pour la caverne du gobelin qui nous est en quelque sorte imposé. Donc, vous allez le retrouver sur le billet, il sera écrit, pas de panique, mais on va quand même vous l'énoncer. C'est C en majuscule comme crâne, N en majuscule comme nausée, D en majuscule comme dégoût, 8 comme le nombre de pattes d'une araignée, R majuscule comme répugnant, U en minuscule comme ulcère. Pas de panique, donc ce sera écrit sur le billet si vous voulez avoir donc 5€ de réduction à partir de 40€ d'achat chez notre partenaire, la Caverne du Gobelin, sur le site cavernedugobelin.fr, on vous le rappelle. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les informations sur les sujets que nous avons abordés pendant ce dossier. Vous pouvez également nous contacter sur Blue Sky, Mastodon, Facebook ou Instagram et également nous rejoindre sur notre serveur Discord. Et surtout, parlez de nous autour de vous.
Et si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez nous donner des sous via PayPal ou un virement bancaire. Tout ça, vous le trouvez sur notre site. Y a une grande banderole comme ça avec écrit « Comment nous donner de l'argent ?». Vous aurez les informations sur notre RIB pour nous faire un virement ou sur notre compte PayPal pour nous envoyer des sous via PayPal.
Voilà, et c'est grâce à vos dons que, par exemple, on va bientôt à SN. Sachez-le.
La semaine prochaine, on se retrouvera dans un nouvel épisode du Nanar Ludique, 5 vendredis dans le mois oblige, qui sera animé par le Pionfesseur. Et le mois prochain, on ne sait pas encore vraiment. Il y aura effectivement SN entre-temps. On aura peut-être des surprises dans le planning. On vous dit de toute façon à très vite sur Proxy Jeux et d'ici là, jouez bien.